que vous connaissez la chanson de l'oignon de Napoléon.
Pardon ?
La chanson de l'oignon, les soldats, c'est le nom de Napoléon, c'est les circonstances, ça vous dit rien ?
Je l'ai, je crois, lu, mais je n'ai pas souvenir des paroles.
Je regrette que la coopérative ne prenne pas. C'est une occasion unique. Napoléon rencontre les soldats la veille de Marengo, qui étaient pleins d'ardeur le matin. Il leur dit, mais d'où tirez-vous cette ardeur? Et ils étaient en train de manger une tranche de pain avec de l'oignon frotté dessus, comme faisaient nos ancêtres ici. Et de là, il y a une marche qui s'appelle la marche de l'oignon. Donc, c'est une bonne idée pour la coopérative.
Je suppose que c'était de l'oignon fort. Ça ne pouvait être que l'oignon fort. En ouvrant la bouche, le soldat ennemi tomberait de mort.
Le pacte de Recorps, ça vous dit quelque chose?
Non.
À Saint-André, dans la terre de Rouen, le chanoine de Lambourgeux dit que les gens de Saint-André ont accepté de se soumettre à Rouen et qu'ensuite ils sont revenus prétextant le pacte de Recorps. J'ai jamais trouvé d'informations là-dessus. Apparemment, c'est quand on arrache une adhésion par la force. Donc, ils disent, nous, on nous a arraché cette adhésion à Rouen par la force, donc on revient.
On veut recouvrir ce
point.
Non, alors ce qu'il faudrait quand même, bon, parce que je voulais être limité dans le temps, on a l'impression, bon, en écoutant, que finalement, les affrontements ont été permanents. C'est vrai qu'il y a eu des périodes d'affrontement, mais si on fait le bilan humain, bon, un mort est toujours un mort, et on regrette bien évidemment la mort d'un homme, hein, mais ils sont relativement limités. Finalement, quand je rédigeais cette conférence, je me disais, c'est finalement l'histoire plutôt de la coexistence pacifique qui devrait être mise en avant. Parce que, hormis ces périodes, hein, de crise intense ou d'affrontement, finalement, la plupart du temps, 90% de cette période-là, ça a été une cohabitation forcée, ou une coexistence pacifique, ou une guerre froide, mais finalement, ces gens, ils cohabitaient quotidiennement. Alors, dans une paroisse massivement catholique, on est entre soi, mais les protestants, on les rencontre nécessairement. On va au marché, on va dans des villes voisines, on est obligé de traverser des territoires protestants, et donc, on les côtoie, on est confronté à eux, et idem, dans les paroisses massivement protestantes, il y a eu toujours, quand même, deux ou trois familles catholiques, voire davantage, dans un certain nombre de paroisses. Donc, finalement, c'est la coexistence qui l'a emporté sur la confrontation. Mais par contre, ces épisodes dramatiques, hein, ils ont été très souvent traumatisants, ils ont été très localisés, hein, ça n'a duré parfois que quelques jours, quelques mois. Bon, pour la guerre des Camisards, allez, 2 ans, enfin pendant 2 ans, les catholiques et les protestants ne se sont pas systématiquement affrontés. Donc ce sont des événements très localisés dans le temps, mais qui ont une portée mémorielle très grande et qui a perduré à travers le temps. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant aujourd'hui, hein, de protéger ce que l'on appelle ce petit patrimoine confessionnel, parce qu'il porte le témoignage, hein, du poids de la mémoire de ces événements passés qui ont perduré, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui. Et ça serait dommageable, hein, de les laisser disparaître, de les voir enfouir dans la mémoire, alors qu'ils sont un élément important de la pluralité des Cévennes. Les Cévennes, très souvent, on pense que les Cévennes, c'est protestant. Non, il y a une Cévenne protestante, mais également il y a une Cévenne catholique. Et dans les deux cas, il faut reconnaître aux uns et aux autres que la résistance, elle n'est pas uniquement protestante, elle a été également catholique. Et que cette résistance, pour la liberté de conscience, qu'elle soit catholique ou protestante, eh bien c'est toujours quand même, on le voit hélas à travers l'actualité d'aujourd'hui, un objet de réflexion et une question d'actualité.
J'ai une question à vous poser. Pour l'actuel que nous vivons en ce moment, surtout pour les générations qui arrivent, il n'y a plus de pratiquants, ni de catholiques, ni de protestants. Il semblerait qu'avec les protestants et les catholiques, nous faisons des réunions œcuméniques et il y a de plus en plus de l'amitié. Alors, on voudrait savoir, pour la jeunesse qui monte, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer? Les églises sont vides, les temples sont vides. Où allons-nous? La morale, où est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons le siècle actuel. Je vous donne une réponse.
Ah, la réponse est... La réponse est difficile. Je suis protestant. Ma femme est catholique. Bon. Nous avons deux enfants à qui nous avons laissé le choix d'être ce qu'ils veulent. Bon, l'un, pour l'instant, n'a pas fait de choix. Ma fille, sur le coup des 13 ou 14 ans, a dit ah « ben, je veux être baptisée protestante ». Bon, nous ne sommes pas maîtres, j'allais dire, du devenir de nos enfants. On ne va pas leur imposer... une confession. Ceci étant dit, à mes enfants, à nos enfants, à vos enfants, on peut leur raconter quand même l'histoire de ce pays et l'importance du facteur religieux. Le fait qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait plus personne à l'église ou au temple, est-ce que ça signifie pour autant que les gens sont sans religion ou sont hostiles à leur religion? Ça, j'avoue, je ne le sais pas. Il y a beaucoup, moi, je connais beaucoup de protestants, dont je fais peut-être partie, qui ne mettent quand même pas très souvent les pieds au temple, sauf quand je vais à Bardet-Cévennes l'été, parce qu'il faut faire nombre. Hein. Bon, je connais beaucoup de catholiques qui ne vont plus à l'église, mais je me demande parfois si un beau jour on devait attenter à un temple ou à une église, je suis persuadé qu'un certain nombre de cévenols, hein, qui ne mettent plus ni le pied à l'église ni le pied au temple, se mobiliseraient comme les catholiques se sont mobilisés pour se défendre ou comme les protestants se sont mobilisés pour se défendre. Voilà.
Moi j'ai 4 enfants, je suis né d'une famille catholique, très catholique. J'ai mon frère qui était missionnaire en Madagascar, mais j'ai mes 4 enfants, ils nous suivent, mais ils ne pratiquent pas.
Mais peut-être qu'on peut pratiquer, vous savez, sans aller au temple et à l'église, hein, ma foi.
Voilà, hein. C'est la réponse. C'est un comportement.
Voilà. On peut avoir un comportement, en effet, comme disait monsieur, un comportement de chrétien sans être obligé, j'allais dire, de...
Mais, être chrétien et catholique, c'est différent.
Ah.
Vous pouvez être très chrétien et pas du tout catholique.
Ah. Alors là, vous me posez. Là, je viendrai faire une autre conférence.
Il y a des gens qui sont ni protestants, ni protestants, ni catholiques, et qui sont chrétiens. Parce que tu vois, son voisin, ils ont beaucoup pour venir s'en occuper. Ces gens-là, ils n'ont aucune religion, mais ils ont le sens de la bonté et de recevoir les autres.
Ça fait pas mal. Donc, la morale chrétienne peut s'exercer sans être obligé de pratiquer. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça me chagrine un peu de voir ces églises et ces temples totalement désertés.
Je pense que nous n'avons qu'un bon Dieu, et celui qui fait la bonne route ne se trompera pas. C'est pas le tout d'être chrétien et de donner un coup de pied à son voisin.
C'est vrai.
Vous comprenez ? J'entends souvent un coup de langue qui est plutôt mauvais qu'un coup de main.
C'est vrai.
Alors, ce qu'on peut se demander, on se rend compte quand même que l'histoire se répète. Enfin, il y a des choses qui nous interpellent. Quand vous dites qu'à un moment donné, bon, là, il y avait la religion, mais au moment de la Révolution, quand ils ont recueilli un peu les idérata des gens, c'était les gens voulaient des réformes. Donc tout le monde se retrouvait là-dedans. Ça nous parle quand même sur certaines choses. Quoi. Et puis après, par contre, également, quand il a fallu reformer des municipalités, prendre des responsabilités, ben là, hop, les postes à pouvoir, ben, de suite, ça génère aussi des batailles. Donc ça, on voit bien que l'histoire se répète régulièrement. Alors, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des périodes comme ça où il y a eu justement une certaine désaffection de la religion, ou c'est juste quelque chose qui est récent?
Non, quand même, il ne faudrait pas, quand même pas croire que même à 1560, quand la réforme s'installe, les pasteurs d'un côté et les curés de l'autre ont eu beaucoup de mal, parfois plus d'un siècle, à faire de leurs paroissiens de véritables catholiques et de véritables protestants. Ça a été un processus de très longue durée. Bon, dans une conférence, on ne peut pas expliquer ça, ça demanderait beaucoup de temps. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens le disent, vraiment le sentiment d'être profondément catholique et profondément protestant, c'est-à-dire de croire hein, au dogme des uns et des autres, c'est quelque chose de relativement récent dans la longue durée en France. Hein. C'est vraiment autour de la Réforme hein, que le christianisme s'enracine pratiquement dans le cœur des gens et que les gens ont vraiment, à partir de là, le sentiment bon, d'être catholique et d'être protestant et de savoir pourquoi il y a ces différences entre les uns et les autres, même si parfois les différences sont résumées à des clichés, c'est un hérétique... ou c'est un suppôt de Satan, etc. Bon, ceci étant dit, l'histoire se répète à la fois oui et non. Aujourd'hui, je doute que, aussi bien à Bar des Cévennes hein, tout connu, ou à Notre-Dame de la Roudière, je doute que, comme dans les années 1950, on dit tiens, ah tiens, on a élu un maire catholique, c'est la première fois que ça s'est produit à Bar des Cévennes. Bon. Je doute ici qu'on demande au maire un certificat de catholicité.
On ne demande pas des certificats, mais parfois ça a son importance au niveau des élections.
Ça
on ne l'a pas d'ici, hein, forcément.
Voilà. Alors, le problème des affrontements politiques à base confessionnelle, c'est un problème qui a duré, j'allais dire, jusque dans les années 50, encore 60. Mais aujourd'hui, j'allais dire, les problèmes politiques l'emportent très largement, j'allais dire, sur les problèmes confessionnels. Ce qui était très différent autrefois. Pourquoi catholiques et protestants, par exemple, s'opposaient dans une paroisse ? Dans les paroisses, il y avait toujours ce que l'on appelait un bureau de charité. Alors, le bureau de charité, il était contrôlé par les autorités locales, le maire de l'époque, le consul, on disait à l'époque, mais également... Le curé et ou les protestants. Et là, il y avait un enjeu, parce que l'enjeu, c'était eh bien, l'argent que l'on lègue à ces bureaux de charité, il va servir à qui ? À subvenir aux pauvres catholiques ou à subvenir aux pauvres protestants, etc. Donc là, il y avait des enjeux qui étaient à la fois des enjeux matériels, mais qui étaient également des enjeux symboliques. Or, les enjeux symboliques, ils ont quand même leur importance. Vous me dites, oui, encore aujourd'hui, on peut. Pourquoi ? Parce que derrière la confession ou la non-confession se cache un certain nombre d'images hein, ou de symboles qui sont attachés, que ce soit à tort ou à raison, à cette identité religieuse et où. Voilà. Mais quand même, à partir de la Réforme, progressivement, en France, c'est peut-être ça l'importance de la Réforme en Europe, c'est que progressivement. Les gens intelligents, ce qu'on appelait les moyenneurs, les politiques au XVIe siècle, ont compris qu'il fallait séparer le politique du religieux. C'est-à-dire qu'on peut... Il y avait des gens intelligents au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, qui disaient, bon, on est catholique, d'accord, on est protestant, mais nous sommes tous à l'intérieur d'un royaume, hein, commandé par un roi, nous sommes des citoyens... de ce royaume, et donc des gens qui ont très tôt, mais ils ont eu gain de cause que tardivement, qui ont tout de suite distingué voilà, la confession de l'appartenance territoriale, hein, on dirait aujourd'hui de l'identité nationale, etc., et qui ont essayé de faire en sorte hein, que la confession soit liée à ce que l'on appelle le fort intérieur, c'est-à-dire à sa propre conscience. Voilà. Et je crois que les problèmes que l'on voit à travers le monde, c'est d'essayer de faire pénétrer cette idée, hein, que certains appelleront la laïcité, entre guillemets, mais qui est très souvent mal comprise, c'est-à-dire séparer le domaine de la foi et de l'action politique, sociale, etc. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Voilà.
Que pensez-vous de cette thèse qui consisterait à dire que penser au Pierre Blanc, justement, que les causes seraient plutôt catholiques et le granit protestant, que je précise, j'habite Cambrieux depuis 15 ans, c'est récent, je suis natif de Nantes et de la région de Vendée dont vous avez parlé. Ça m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé aussi beaucoup de choses. Ceci étant, Lucien m'a dit ça il y a 3 ans, Il se trouve que Cambrieux, ce sont les Cambrieux, je ne sais pas si vous connaissez, mais oui, oui, n'a pas eu de temple à connaissance. Oui. Et dominant catholique, ça remonte au niveau de l'histoire assez loin, d'après l'historien de Lequin que j'ai interrogé. Voilà, je sais pas si vous en avez.
Alors, c'est une très vieille thèse. Hein. Qui remonte bon, quand même au XIXe siècle, à partir du moment où il y a une réflexion sur ben, pourquoi il y a des régions catholiques et pourquoi il y a des régions protestantes, pourquoi il y a des paroisses qui sont restées catholiques et pourquoi il y a des paroisses qui sont restées protestantes ou qui sont devenues protestantes. Alors, ça n'a rien à voir avec le substrat géologique. Je vais prendre un exemple. Grisac, c'est du granit, si vous allez, c'est un magnifique village du Bougès. Or, ce fut une paroisse protestante. Hein. Donc, il n'y a pas de rapport entre le granit, le catholicisme et le protestantisme. C'est le hasard qui a fait que la vague protestante venue de Nîmes ou de Montpellier ou d'Uzès s'est arrêtée au Causse, par exemple, ou n'a pas débordé sur le Rouergue, sauf la région de Millau. Et on peut trouver des catholiques installés sur du granit, comme on peut trouver des protestants installés sur du granit, ou inversement sur du calcaire. Donc là, il n'y a aucune influence entre les roches et le choix confessionnel, pas plus d'ailleurs qu'entre les astres et le choix confessionnel. Sinon, on ne serait pas chrétien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une thèse qui a été avancée. Et elle, en effet, vous êtes originaire de la Vendée. Un certain nombre de politicologues, comme on disait, enfin, surtout de chercheurs sur le vote, j'arrive pas à trouver le nom. Bon, de chercheurs qui se sont interrogés pourquoi on vote à droite, pourquoi on vote à gauche, en Vendée, par exemple, certains ont avancé l'idée que, mettons, le bocage favoriserait les royalistes, hein, et que les plaines seraient républicaines. Non. Si on fait une analyse profonde, on s'aperçoit que ni le paysage bocager ou celui de plaine n'a véritablement une influence politique. Le hasard a voulu que c'est plutôt la structure sociale, les structures mentales qui expliquent les choix confessionnels des uns ou des autres. Ça n'a rien à voir avec la géologie. Le hasard a voulu que le protestantisme s'arrête au pied d'Écosse. Voilà. Mais dans d'autres régions, en Vivarais, par exemple, ce sont des régions calcaires, vous avez des protestants.
Oui, dans ça, c'est le loup du Causse était protestant et il était né à Saint-André-Rochecourt.
Et voilà. Oui, on pourrait. Mais quand même, vous voyez ici à Saint-Martial, Notre-Dame, là, on a, plus qu'à Saint-André peut-être, on a vraiment un véritable bastion où là, il y a pratiquement eu très peu de protestants qui ont réussi, je veux dire, à investir dans les terres, etc.
Est-ce qu'on peut parler de l'influence des, j'aime pas ce terme, mais des grandes familles, des propriétaires, des grands propriétaires sur la région?
Si vous voulez,
la Linière, de l'Omède.
La persistance des choix confessionnels sont liées en effet. Bon, il faudrait que je fasse une autre conférence, mais quand le protestantisme s'installe dans notre région, il s'est installé clandestinement, hein, entre 1530 et 1560. Pendant ces années-là, le protestantisme est minoritaire, ça concerne que quelques familles, des artisans, des marchands, des notaires surtout, quelques nobles, mais il est discret, on ne le voit pas, le voisin peut-être ne sait même pas, hein, que le seigneur du coin est protestant. D'abord, le mot n'existe pas, il viendra plus tard. Alors, la fidélité à une foi, elle est liée à des choix personnels, mais également à cette époque-là, elle est liée à des réseaux familiaux, hein, importants, beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, à des familles qui sont élargies, qui sont dispersées à travers les territoires, et également sont liées au niveau de fortune économique, au niveau d'alphabétisation, etc. Et donc c'est très complexe. Et c'est vrai que, par exemple, un certain nombre de régions ont résisté au protestantisme, certainement parce que l'encadrement clérical des curés était certainement beaucoup plus solide, beaucoup plus fort que dans d'autres régions. Vous savez qu'une partie, en 1550-1560, une partie des protestants venait très souvent des ordres religieux, hein, qui étaient partisans d'une réforme de l'Église, voire même un certain nombre de prêtres, hein, qui ont basculé du côté du protestantisme pour des désirs de réforme liés à une certaine conception de l'Église. Donc les réseaux familiaux ont joué, mais là aussi c'est complexe. Si on prend le cas de notre région, par exemple, je crois que c'est à Saint-Martial, le seigneur, je crois que Saint-Martial appartenait au seigneur de Gand, si mes souvenirs sont exacts, qui a basculé dans le protestantisme. Ben, ces sujets sont restés catholiques, ils n'ont pas adhéré à la religion de leur seigneur. Et inversement, vous avez des seigneurs qui ont basculé dans le protestantisme et et leurs sujets sont devenus à leur tour protestants. Mais après, vous avez des choses bizarres. Par exemple, si on prend Fraissinet de Fourques, qui est une sorte de terre blanche, une commune catholique, entourée de paroisses protestantes. Là, on ne sait pas pourquoi eux sont restés catholiques alors que les autres sont devenus protestants. Mais pendant la guerre des Camisards, on s'aperçoit qu'il y a des affrontements dont les causes remontent à l'introduction de la réforme, voire même au-delà. Rivalité entre familles, peut-être affrontement pour la gestion des terres communales, voire même pour la gestion des pâturages sur les goiles, etc. Donc il y a des considérations économiques, sociales, symboliques, etc., qui expliquent le choix des uns ou des autres, mais c'est assez déroutant, et donc j'allais dire que c'est une énigme.
C'est pour ça qu'encore en ce moment, je cherche les intérêts particuliers avant les intérêts généraux. C'est souvent ce qui prime, hein, c'est que les intérêts particuliers sont souvent en tête parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des avantages. Et le pouvoir permet à certains de pouvoir naviguer un peu plus au-dessus de la foulée.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans une démocratie, donc avec un bulletin de vote, on peut remplacer les uns par les autres.